à toutes, bonjour à tous, bienvenue dans Culture Monde, votre magazine international que vous retrouvez du lundi au vendredi sur France Culture. On est ensemble jusqu'à midi. Une émission préparée ce matin par Clément Salazar, aussi Tiffaine de Rocchini, Samuel Bernard, Anne-Sophie Pierry, réalisée par Jean-Christophe Francis et mise en onde ce matin par Dofar Guérin. Suite de notre série donc « Vivre en temps de guerre ». Hier, nous parlions de Mossoul qui, exactement 3 ans après l'occupation de la ville irakienne par les djihadistes de Daesh, est sur le point d'en être libéré. Mossoul où d'ailleurs plusieurs journalistes ont été victimes d'une explosion qui a emporté la vie de 2 d'entre eux, Bakhtiar Haddad, journaliste irakien, mais aussi Stéphane Villeneuve qu'on recevait il y a quelques temps ici à ce même micro. Aujourd'hui, place aux violences sexuelles. Au lendemain de la journée internationale pour l'élimination de la violence sexuelle en temps de conflit, le viol comme arme de guerre, c'est notre sujet ce matin dans Culture Monde.
خلاص لازم يتنفس فيها الشيء هذا فيجيب مجند ممكن هو يرفض انا يا اخي يعني
ils ont dit ça suffit, nous devons lui faire, et ils ont amené un soldat. Il a d'abord refusé de le faire. Je l'entendais dire, j'ai des filles, j'ai des sœurs. Ça ne faisait rien. Ils lui ont répondu, tu dois le faire, c'est un ordre militaire et tu ne peux pas refuser d'obéir. Le premier viol était dans un appartement à Homs. Ils étaient prêts à violer toutes les filles qui étaient avec moi, pas seulement moi.
Nous lui fournirons un logement pour qu'elle puisse sentir qu'elle est une personne normale. Après, il faut la laisser parler à son rythme. Il ne faut pas faire pression sur elle. Elle a besoin de se sentir en sécurité. Comprendre que ce qui lui est arrivé n'est pas différent que ce qui est arrivé à beaucoup d'autres, y compris les jeunes hommes, les blessés, les détenus, etc.
Vu son état psychologique, cela va demander beaucoup de temps avant qu'elle puisse s'en remettre suffisamment pour parler avec des étrangers, avant qu'elle ne soit capable de réintégrer la société. Nous avons vu des filles qui ont mis plus d'un mois avant de pouvoir le faire.
Oui, les djihadistes de Daesh ne sont pas les seuls à s'être rendus coupables de viol. Le régime aussi l'a utilisé de manière récurrente depuis le début du conflit en Syrie. Si les preuves et témoignages de l'usage du viol comme recours d'une stratégie politique et militaire ne manquent pas, ce n'est que depuis 2008 qu'une résolution du Conseil de sécurité de l'ONU le qualifie en tant que crime de guerre et crime contre l'humanité. Le signe peut-être d'une recrudescence d'un phénomène désormais tristement répandu dans les conflits contemporains. L'ex-Yougoslavie, le Rwanda, la RDC, le Darfour, mais encore plus récemment la Libye ou la Syrie. Mais peut-on vraiment parler de recrudescence, ou s'agit-il seulement de la découverte d'une certaine manière d'un phénomène ancien rendu longtemps invisible par son caractère éminemment tabou? Nous allons tenter de comprendre comment le viol peut devenir une arme de guerre, comment il peut être utilisé au point d'être institutionnalisé. Qu'est-ce qui est recherché à travers ce phénomène? Il est question de domination, bien sûr, celle d'un corps sur un autre, mais aussi la domination d'une communauté sur une autre, d'une ethnie sur une autre, d'un groupe sur un autre, d'un peuple sur un autre. Dans le viol en temps de guerre, il est aussi question de détruire une société, voire une nation, et d'en compromettre l'existence et l'avenir. Alors, quelles sont les conditions par lesquelles, tout à coup, lors de l'éclatement d'un conflit, le viol devient systématique, systématisé? Comment penser les actes de viol dans des situations de guerre? Que révèle-t-il aussi de nos cultures de la violence en général? Pour évoquer toutes ces questions, avec nous deux invités en plateau, Véronique Naoumgrab, bonjour.
Bonjour.
Merci beaucoup d'être avec nous. Vous êtes anthropologue à l'EHESS. Vous avez beaucoup travaillé sur la question des différences de sexe, sur la domination masculine, sur la violence faite aux femmes. Vous êtes notamment intéressé à l'ex-Yougoslavie. On en reparlera ensemble dans cette émission. À vos côtés, Leïla Mignano, bonjour. Merci également d'être avec nous. Vous êtes journaliste freelance, vous êtes membre d'un collectif YouPress et Zero Impunity, un projet transmédia d'investigation mais aussi d'activisme contre l'impunité des violences sexuelles dans les conflits. Vous nous présentez un peu ce travail. Il y a plusieurs enquêtes, 6 au total. Expliquez-nous un peu ce projet.
Donc c'est un projet qui a été lancé il y a tout juste un an par une boîte de production luxembourgeoise, donc ABAN, qui a pour base 6 enquêtes réalisées par 11 femmes journalistes, donc sur 6 terrains de guerre différents, donc la Syrie, l'Ukraine, la République centrafricaine. On a enquêté aussi sur les terrains où les casques bleus se sont rendus coupables d'agressions sexuelles, également dans les couloirs de la Cour pénale internationale. Et donc voilà, c'est un travail d'enquête qui a duré 2 mois. Il y a maintenant 6 mois, et qui va donner, enfin, à chacune de ces enquêtes, il y a eu une série de pétitions écrite en collaboration avec Change.org qui demande des revendications précises sur comment faire changer les choses.
Ouais, les publications s'accompagnent de mobilisations internationales.
Exactement. Mmh. Donc on a recueilli 334 000 signatures à ce jour. Et hier a été lancée la manifestation virtuelle. Donc, qui est disponible, qu'on peut consulter en ligne sur le site de Zéro Impunity. Et en janvier 2018, il y aura aussi un film d'animation, réalisé par un gros studio qui s'appelle Mélusine Productions, et qui sera basé sur les faits réels, sur toutes les paroles qu'on a pu recueillir tout au long de ces enquêtes.
Oui, et vous êtes, vous, intéressé en particulier à la série. On va y revenir. Mais d'abord, je me tourne vers vous, Véronique Nahongra, pour peut-être quelques éléments un peu généraux, pour poser un peu le cadre de ces discussions. Le viol, évidemment, n'est malheureusement pas une nouveauté. Il est probable qu'il ait finalement toujours été pratiqué en temps de conflit. Mais est-ce que vous diriez que dans la période récente, dans la... disons, deuxième partie du XXe siècle, il y a eu, disons, une nouvelle manière d'utiliser ces crimes comme armes de guerre, je reprends cette formule, faisant du corps, et essentiellement celui de la femme, même si c'est pas seulement le cas, on le verra dans cette émission, mais où ce corps devient le lieu de conflictualité.
Disons que le mot même de viol comporte en lui-même, dès qu'on l'énonce, son propre cliché, qui rend d'ailleurs invisibles les situations, les problématiques, les faits. Et viol en temps de guerre, c'est un énorme cliché. Donc s'il y en a toujours eu, donc il n'y en a pas plus qu'avant et le problème est clos. Or, il n'est pas clos. Or, effectivement, me semble-t-il, depuis la deuxième moitié du XXe siècle et ce début du XXIe siècle, la problématique se pose différemment. L'idée, par exemple, du viol comme arme, ça c'est très étrange, ou l'adjectif de Roy Goodman en 93 pour le viol en ex-Yougoslavie, systématique. Voilà, ça c'est étrange. Par contre, l'idée du viol comme butin du guerrier, ivre de vin et de sang, l'idée du viol comme fin de la guerre, comme etc., ça c'est quelque chose que les historiens documentent. On a des livres sur les viols en temps de paix, et le dernier excellent de Raphaël Branche et de Fabrice Virgili sur les viols en temps de guerre. On commence à avoir une belle bibliographie, mais il me semble qu'il faut définir ce dont on parle. D'une part, les viols en temps de guerre ou en temps de paix semblent être les plus éloignés du politique. D'ailleurs, la réticence des instances internationales largement masculinisées dans leur représentation politique a tendance à ne pas entendre. On veut bien faire de la psychiatrie, les soigner, ces pauvres créatures, mais poser politiquement la question du viol en temps de guerre, ça n'est pas encore arrivé. Et d'ailleurs, ça pâtit d'ailleurs de toute cette espèce de bémol sur les crimes contre l'humanité qui serait plus humanitaire que politique.
Qu'est-ce qui l'en empêche?
À mon avis, cette idée que le viol est un crime de barbarie régressive, surutilisé dans les propagandes de guerre contre l'ennemi, ce barbare qui viole et étrangle vos femmes et vos compagnes, etc. Et donc, si vous voulez, il y a pas seulement le tabou, mais une espèce de gêne. Mais ce que je voudrais dire, de quoi on parle? Le viol des femmes. Le viol est un crime à la fois de domination, qui suppose une situation de face à face en termes d'une extrême dissymétrie de rapport de force, premièrement. Et deuxièmement, c'est un crime de souillure et de profanation. C'est-à-dire qu'il s'adresse aussi à l'identité culturelle du sujet que l'on massacre. C'est-à-dire qu'on sait très bien, et surtout dans les cultures traditionnelles, que si la définition de la femme, son honneur, guillemets, est liée à la maîtrise de sa sexualité, en particulier sa sexualité non légitime, c'est-à-dire une valorisation de la chasteté pour des raisons politiques, religieuses, quelle que soit la configuration idéologique, si vous voulez, quand elle est religieuse, évidemment, elle est implacable. Et le viol, donc, casse ceci. C'est-à-dire que ça s'adresse aussi au psychisme et ça salit la victime. Et ça, c'est le point important. Le poids de la négativité, le poids de la honte et le poids de la culpabilité basculent du côté de la victime, qui est souillée, qui est salie, et dans certains cas, autour d'elle, dans la mesure où cette culture négative sur le fait que l'honneur des femmes tient à leur sexualité, dans certains cas, elle est même ostracisée après, c'est-à-dire punie du crime qui la détruit. C'est pour ça que le viol n'est pas un crime qui tue autrui. C'est un crime qui laisse vivre, qui fait regretter d'être né, parce que c'est un crime continu dont les effets de destruction, contrairement au crime avec un poignard, je te tue et tu es mort et c'est fini, l'histoire commence de la destructivité avec le viol qui continue dans le temps avec la menace de grossesse, avec la menace de maladie sexuellement transmissible. C'est même plus la peine de tuer la femme violée, c'est un meurtre de genre et la mort est trop douce dans bien des cas.
On y reviendra évidemment, et je le redis, vous avez beaucoup travaillé vous sur l'ex-Yougoslavie, il y a beaucoup de choses à dire, et nous y reviendrons. Mais je reviens sur un point, et ensuite je vous donne la parole, Leila Mignano, mais vous dites, il faut peut-être discuter la question de savoir s'il y a recrudescence ou pas.
D'accord.
Il y a recrudescence en quelques mots.
Alors, excusez-moi, quelques mots, c'est bon.
Alors,
il me semble qu'il est impossible de mettre sur à plat le chiffre noir des viols, la prise de Carthage avant Jésus-Christ, la chute de Rome, à Nankin en 37, à Berlin 100 000. L'ONU a essayé, il y a des dossiers que vous avez en 2014, donc où ça a été, où des chiffres ont été proposés, 60 000 pour l'ex-Yougoslavie, nous disions 20 000, et même je dirais que les chiffres sont assez obscènes, mais disons que le chiffre noir des viols commis en temps de guerre, nous ne l'aurons jamais, nous ne pouvons que supposer, comme dans Salambo, parce qu'il y a une espèce de configuration culturelle qui fait que, à victoire sur des populations civiles, quand les militaires armés croisent des personnes démunies, désarmées, déshabillées, appauvries et en état de peur, de vulnérabilité, cette logique de la domination fait que les viols sont hautement plausibles, mais pas tout le temps. Et nous avons des cas de grande violence, comme dans les mafias du début du XXe siècle en Italie, où le viol est exclu. Donc, ça n'est pas systématique. Le fait que ce soit en recrudescence, je vais vite parce que je sens que vous...
Je vous en prie, sentez-vous libre.
En recrudescence, mais ça change de figure, c'est-à-dire qu'en même temps que le viol est internationalement judiciarisé, désigné, dénoncé, en même temps, dans les pratiques, nous voyons qu'il s'étale avec une espèce de non-culpabilité, de normalité, comme s'il avait été normalisé en tant que possibilité, un peu comme ce que Devreux disait des modèles d'inconduite, ne le fais pas, mais si je condamne ce modèle d'inconduite, je le fais exister comme possible, comme action pensable et possible. Et c'est ça qui est tragique et ce qui est en train de se passer, c'est devenu quelque chose de beaucoup plus visible et normalisé en temps de guerre, dans des situations très différentes les unes des autres.
Leila Mignano, et puis ensuite je voudrais parler de la Syrie, sur laquelle évidemment vous avez produit un travail d'enquête, on va y revenir, mais... sur les obstacles politiques et institutionnels dans la reconnaissance de l'acte de viol dont parlait Véronique Naoum-Grapp. À la veille de la Journée internationale pour l'élimination de la violence sexuelle en temps de conflit, c'était donc hier, Denis Mukwege, qui est donc un gynécologue, prix Sakharov 2014, celui qu'on a surnommé l'homme qui répare les femmes, qui est spécialisé dans cette prise en charge des femmes victimes de viols collectifs. Il a signé une tribune dans Le Monde, dans laquelle il appelait l'Europe à s'impliquer davantage dans la lutte contre les viols comme arme de guerre. Il disait, je le cite, « Les pays européens ont la possibilité, la capacité et le devoir d'unir leurs efforts pour faire respecter l'interdiction d'utiliser les violences sexuelles, par exemple au travers de sanctions par l'Union européenne. L'engagement de tous est nécessaire pour marquer le début d'un monde où le viol comme arme de guerre n'est plus tolérée. » Il y rappelait un certain nombre de choses, un certain nombre de combats qui ont débuté par des processus de médiatisation et puis ensuite à des conventions contraignantes, même si évidemment on sait que ça ne règle pas tout, mais il prend l'exemple des armes chimiques, des mines antipersonnelles. Alors évidemment, même si tout n'est pas comparable, mais il montrait une certaine stupéfaction dans le manque de réaction des pays face à ce phénomène. Il prenait par exemple l'exemple de ce président philippin qui a encouragé publiquement ses soldats à violer les femmes, leur assurant de leur soutien. Et donc Denis Mukwege considère que finalement la communauté internationale ne prend pas à la hauteur, n'est pas à la hauteur du défi, de la situation. C'est vrai que même si, Leila Mignano, l'opinion est de plus en plus informée sur ces questions, l'effort politique et diplomatique et institutionnel est encore très insuffisant. Comment le comprendre ?
Moi, je pense que, enfin, ça fait quelques années que je travaille sur le viol maintenant, et ce que je peux dire, c'est que ce qui est le plus choquant, c'est l'impunité. L'impunité de leurs auteurs. C'est que ce soit en France, que ce soit à l'étranger, et encore plus quand il y a la question de la guerre qui vient se mettre par-dessus, on est dans une totale impunité des violeurs. C'est où qu'on soit. Évidemment, il y a une femme sur 10 en France qui porte plainte, etc., ce qui ajoute. Mais quand bien même, quand une femme réussit à traîner son agresseur devant un tribunal, très, très souvent, ça se termine soit par du sursis, soit par un non-lieu. Donc ça, c'est une responsabilité de nos institutions, de notre justice, de la justice internationale. Et je pense qu'évidemment, le docteur Mukwege a eu complètement raison de pointer ça. C'est l'Europe, mais c'est pas que l'Europe, en fait. C'est l'ensemble de la communauté internationale qui doit se saisir de cette question. On dit souvent que le viol, c'est la dernière roue du carrosse, mais c'est vraiment la dernière roue du carrosse.
Vous pensez qu'il faudra une initiative, alors même si une fois encore, on sait bien que les effets sont limités, mais une initiative du type interdiction. Alors, bien sûr, ce n'est que de la rhétorique et les effets sont probablement pas ceux qu'on espérerait, mais une interdiction du viol en temps de guerre, est-ce que ça... Il prenait le parallèle avec les mines antipersonnelles, avec l'interdiction des armes chimiques. On sait bien, ça règle pas tout. On l'a vu, on va parler de la Syrie. Dans le cas de la Syrie, on l'a vu. Mais le fait de prendre une position aussi forte, est-ce que c'est pas quelque chose qui manque?
Les armes juridiques sont là. Enfin, aujourd'hui, le viol est interdit en France. Si les troupes françaises commettent des viols à l'étranger, elles doivent être punies. Le problème, c'est que ça n'est pas appliqué, en fait. On devrait juste commencer par faire le ménage chez nous. Donc en France, la France qui est aujourd'hui mise en cause sur des agressions en République centrafricaine, le ménage à l'ONU, où les agressions des casques bleus et des fonctionnaires de l'ONU sont multiples, et ça n'est pas fait.
Le ménage n'est pas fait. Je dis ça parce que, effectivement, vous êtes intéressé, vous, aux actes de viol commis par l'armée française. Vous aviez d'ailleurs écrit un livre sur ce sujet, La guerre invisible, révélation sur les violences sexuelles dans l'armée française. C'était en 2014. Rien n'a changé depuis dans l'armée française?
Il y a eu une prise de conscience. C'était un premier pavé dans la mare. Il y a eu des mesures qui ont été mises en place, mais aujourd'hui, force est de constater. Enfin, je reçois régulièrement des coups de téléphone, régulièrement des messages Facebook de victimes de l'armée française, mais pas seulement, pour me dire bah, rien n'a changé, il faut faire un tome 2. Donc, du coup, oui et non.
Véronique Naoumgra.
Une des questions, cette question de l'impunité, elle est énorme et elle est troublante. Mais un des points, c'est ce partage comme évident d'une culture de la masculinité dans les milieux militaires, dans les milieux diplomatiques, dans les milieux politiques et même dans les milieux, c'est totalement exceptionnel, les personnes qui se dressent comme ça contre cette pratique, cette culture de la masculinité qui pose comme non visible, moindre, pas très grave, et comme performance l'acte sexuel. Outre le fait que dans notre culture de paix, l'esthétique de la violence sexuelle flambe, explose dans la culture lambda, dans notre dévoration d'images sur écran. Donc, si vous voulez, d'un côté, une scénographie, le viol banalisé, et même un peu excitante comme ça. Et de l'autre côté, une opinion complètement dévorée par cette culture de la masculinité qu'il faut donc déconstruire. Cette idée, exemple, pourquoi les injures? Pourquoi en temps de paix, les actes de haine sociale collective dans la rue s'expriment avec le vocabulaire, le lexique, les gestes de la sexualité? Je m'excuse pour vos éditeurs, mais il faut quand même dire un chat est un chat. L'injure, une des injures les plus communes, c'est le terme enculé. Pourquoi dans nos blagues, pourquoi dans nos perceptions, dans notre communication ordinaire, nous supposons comme allant de soi l'idée que, entre guillemets, excusez-moi les téléspectateurs, baiser l'autre, c'est le posséder, c'est avoir gagné. Pourquoi cet usage du physique de la sexualité pour devenir le symbole de la haine et de la haine victorieuse? Parce que baiser
culture,
l'autre, c'est bien gagner. Donc pourquoi la domination a besoin de cette espèce d'excès? Et autre chose que je voulais dire, c'est que le viol doit être défini aussi quand il est donc utilisé politiquement, systématiquement. Il faut préciser cette bizarrerie. Arme de guerre. On voit bien un général dire à ses soldats, tirer. Mais vous le voyez dire, violer, sur ordre, sur commandement, baisser la culotte. Qu'est-ce que c'est qu'un violeur? C'est pas très séduisant comme image esthétique. C'est pas le guerrier qui monte à l'assaut. C'est quand même assez lamentable, ça devrait lui faire honte. Et pourquoi il n'y a pas cette honte sur le violeur, dans cette action peu reluisante, fessier en l'air, etc. Est-ce que c'est joli de violer? Même je dirais esthétiquement, c'est extraordinaire à quel point la honte n'est pas culturellement pointée sur même l'action du viol de la part du violeur, qui n'est pas très grandiose, même au plan, etc.
Ouais, alors, donc c'est toute une culture de la violence, une culture de la domination qui est derrière tout ça.
Alors, ce que je veux te dire, c'est juste un point, sur l'aide ou peut-être la question du viol comme arme de guerre. Le viol comme arme de guerre s'adresse à une collectivité. Et donc il s'agit bien qu'elle n'ait plus d'avenir. Pas seulement qu'elle soit exterminée, mais qu'elle ne soit pas née, qu'elle n'existe plus. On détruit les cimetières, on viole les tombes et on fait l'enfant de l'avenir. Et en ce sens, il faut que le viol soit défini, je pense, politiquement et peut-être avec l'aide des sciences sociales, dans sa dimension génocidaire. Là, il s'adresse bien aux gènes, à l'avenir, au passé d'une communauté en tant que telle qu'il essaye d'éradiquer de sa présence sur la planète.
Leïla Mignano, Vous avez, vous, couvert les printemps arabes, notamment du côté de la Syrie. Et vous avez donc fait ce travail d'enquête avec Cécile Andrievski sur les viols d'enfants en Syrie. L'autre crime de guerre du régime Assad. Vous êtes allé en Jordanie, en Turquie, pour recueillir un certain nombre de témoignages, de victimes, d'anciens tortionnaires aussi. Vous racontez notamment l'histoire de cette jeune fillette, Nora, originaire de la région de Dera. Dera, il faut redire aux auditeurs que c'est de là où le printemps syrien était parti. Elle est passée dans les geôles syriennes au début de la révolution. Pendant un mois et demi, d'ailleurs à la fin duquel, lorsqu'elle sort, elle est dans, évidemment totalement détruite psychologiquement, au point de ne pas reconnaître sa propre mère. Vous le racontez dans votre papier. Racontez-nous l'histoire de cette fillette de 11 ans. Pourquoi est-ce qu'elle a été emprisonnée? Dans quelles conditions?
Alors, Nora a été arrêtée à l'occasion d'une rafle réalisée par les milices du régime, donc ce qu'on appelle les Mourabarat, dans sa maison, qui était à la recherche de son père.
Service de renseignement.
Exactement. Qui était à la recherche de son père, qui n'était pas présent. Et donc, du coup, comme souvent, ces milices avaient l'autorisation, avaient les mains libres, en fait, de saisir de n'importe quel membre de la famille pour ensuite pouvoir avoir accès à cette personne. Donc, du coup, ils ont emmené Nora. Ils l'ont gardée presque au-delà de 45 jours. Et la veille de sa libération, elle va être offerte en cadeau à un général. Qui va donc l'agresser, et puis ensuite elle va être agressée par ses sous-fifres, en fait.
Et droguée aussi, accessoirement.
Exactement. Elle va plus que droguée, elle va recevoir des injections hormonales, en fait. Donc, du coup, pour faire grandir son corps, pour qu'elle ait davantage de poitrine, etc. Donc, y compris sa mère ne va pas la reconnaître. Elle est traumatisée, ne va pas reconnaître sa mère, mais inversement, sa mère ne va pas la reconnaître non plus, puisqu'effectivement, elle aura changé physiquement. Et ma collègue, donc Cécile Andrievski, qui les a rencontrés, disait que effectivement, physiquement, on sent la fragilité de cette jeune femme qui aujourd'hui a 16 ans et qui a probablement pas changé depuis qu'elle a reçu ses injections d'hormones.
Et aujourd'hui, elle est réfugiée en Jordanie.
Exactement.
Elle est prise en charge.
Elle est prise en charge, elle a la chance d'être accompagnée, donc ce qu'on raconte aussi dans le reportage, par une association.
Est-ce qu'on a une idée de l'ampleur de ces crimes commis par le régime syrien? Et est-ce qu'on peut parler là de la mise en place, une fois encore, d'un système par lequel le viol devient une arme de guerre?
Alors en fait, en Syrie, tout le monde est violé, donc les femmes... les hommes et les enfants. Donc, les enfants ont été... c'est aussi pour ça qu'on a voulu interviewer aussi les tortionnaires. On voulait avoir l'autre côté de l'histoire. Et savoir comment ce système s'était mis en place. Est-ce que c'était des viols sporadiques, qui sont injustifiables, hein, mais est-ce que c'était des viols commis comme ça parce que l'occasion se présentait, ou est-ce que c'était des viols vraiment organisés? Donc, du coup, on a
Vous
eu la chance...
Vous un ancien directeur de prison?
Exactement. On a rencontré l'ancien directeur de la prison d'Alep et également un ancien Mourabarat. Tous les deux avaient pu observer et y compris participer activement au processus. Donc le directeur de la prison d'Alep nous a dit un jour, au début de la révolution, on nous a dit ouvrez les prisons pour mineurs, ouvrez les cellules pour mineurs et mélangez les mineurs avec les prisonniers de droit commun. Donc du coup, l'ordre, c'était pas laisser violer-les, mais le fait est que quand
c'est
on
ce
mélange...
qui s'est passé.
Exactement. Les conséquences étaient évidentes. Et donc, du coup, moi, je pense qu'on peut parler d'un système. Après, la justice internationale le dira, mais à partir du moment où on ouvre les cellules pour mineurs et qu'on les mélange avec les prisonniers de droit commun, y compris les criminels sexuels, eh ben, les conséquences sont là.
Cet ancien directeur de prison, il fait l'objet d'un certain nombre d'accusations de personnes qui disent qu'il aurait lui aussi participé à ces viols, notamment sur des femmes qui étaient venues demander la libération de leur mari. Qu'est-ce qu'il répond à ces accusations? Vous lui en avez parlé. Et cet homme pourrait-il être poursuivi?
Je pense que avec ce qu'il y a dans cet article, il pourrait complètement être poursuivi d'abord pour complicité, puisqu'il admet, il a été enregistré, il a été photographié. Donc ça a été son choix, y compris d'être nommé nommément. On lui a offert la possibilité de l'anonymat en pensant qu'il refuserait, mais il n'a pas voulu. Donc aujourd'hui, il pourrait être complètement poursuivi par la Cour pénale internationale. Et il est également lui-même visé par des accusations, puisque dans les prisons syriennes, dans les trois sur lesquelles on a pu travailler, il y a une cellule réservée aux femmes. Les femmes activistes, donc qui ont pris part à la révolution syrienne, mais également les femmes de personnes qu'on recherche, les femmes aussi qui sont otages, dont on va demander une rançon, mari, etc. Et donc cette cellule où sont enfermés les enfants en dessous de 12 ans et les femmes est souvent ouverte aux geôliers et aux directeurs de prison. Donc du coup, Bassam Aloulou, donc le directeur de la prison, aurait à plusieurs reprises bénéficié de ces ouvertures de prison.
Vous disiez qu'il pourrait être poursuivi en théorie par la CPI, la Cour pénale internationale, sauf que pour ce faire, faudrait-il encore que la Russie ne pose pas un veto ? Et là, on rentre dans des considérations géopolitiques qui bloquent assez largement cette hypothèse.
Exactement. Donc je pense que la Cour pénale internationale, aujourd'hui, ce n'est pas une option, puisqu'effectivement, comme vous dites, il faut qu'elle soit saisie par le Conseil de sécurité. Mais tout n'est pas perdu. Aujourd'hui, il y a un consortium de magistrats européens qui ont commencé à récolter des preuves, essayer d'avoir accès à des ordres directs de torture, la question du gaz, etc., pour pouvoir poursuivre un jour ces tortionnaires. Après, ils n'auront jamais accès, puisqu'effectivement, la Syrie est un État souverain, donc du coup, pour aller arrêter ces personnes, c'est encore autre chose. Mais ce que encore là, le viol n'est pas une question. C'est-à-dire qu'on a pu rencontrer ces magistrats, on a pu en discuter avec eux, et encore une fois, on leur dit, quand on discute avec eux, c'est pas encore une question, c'est pas la question prioritaire. Il y a toujours quelque chose de plus, il y a toujours, et à raison, la torture, la question des gaz, des bombardements, etc. Mais le viol, qui est effectivement une bombe à fragmentation, c'est quelque chose qui va être dans la durée, qui détruit les populations longtemps après. Eh bien, ce n'est pas une question. Et je pense que ça doit être l'enjeu peut-être...
Ouais, ce n'est pas une question, Véronique Naoum-Grapp, je vous fais réagir. Par ailleurs, il faut préciser que le régime n'est pas le seul acteur de viol. Il faut rappeler bien sûr que l'État islamique s'est tristement illustré en la matière. On se souvient bien sûr de ces familles yézidis capturées, violées, mises en esclavage par les djihadistes. Mais on voit que là encore, la question qui est au cœur de cette problématique, c'est celle de l'impunité.
C'est-à-dire que, disons qu'il y a plusieurs cercles d'impunité. Quand le viol est envisagé sous l'angle de la torture, et le mot torture semble donner presque une espèce de dignité, on s'aperçoit que toute situation de domination contre une population donnée en temps de guerre ou en temps de paix, et on peut dire d'une certaine façon que les grandes tyrannies sont en guerre contre leur propre population, on s'aperçoit, et c'était vrai en Argentine, c'est vrai dans d'autres cas, que, et là actuellement je crois que le régime syrien est au sommet de sa capacité d'exterminer, de torturer et de tenter de dominer sa propre population, on voit que le viol est la suite logique du reste, c'est-à-dire massacre, déportation, les affamés, enlever les droits, etc., etc. Comment un régime peut massacrer sa propre population ? Il y a des possibilités, il y a faire des ghettos, il y a les affamés, il y a mille possibilités, et le viol devient, du coup, pour les forces internationales, qui sont dans des bureaux, sages, tranquilles, bien élevés, le viol devient une espèce d'obscénité, ou là, on va dire, c'est un sous-cas de la torture, voilà. Or, nous disons, il faut politiser la torture, les tortures sexuelles à l'encontre de tous les êtres humains et concernant aussi les femmes. Il faut les politiser, il faut leur redonner leur dignité politique et pour ce faire, il faut comprendre ce que c'est. Et la culture du bourreau, sa jouissance de l'impunité parce qu'il pense que c'est normal et définir ce qu'il fait aussi du point de vue de la culture de la victime.
Le viol comme arme de guerre, c'est notre sujet aujourd'hui dans cette semaine consacrée à la guerre, vivre en train de guerre. Leïla Mignano et Véronique Naoum-Grapp sont nos invités ce matin.
France Culture, Culture Monde, Florian Delorme.
Nous sommes arrivés dans une forêt où j'ai vu beaucoup de leurs garçons qui avaient tous des masques. L'un d'entre eux avait un t-shirt complètement ensanglanté. La moitié de son visage était cachée et il tirait en l'air. Ça me faisait très peur. Ils me faisaient peur, ils me menaçaient avec leurs couteaux. Ils m'ont forcé à me coucher par terre, à tout enlever, mon pantalon, mon t-shirt. Ils m'avaient complètement dénudée et ils ont mis un couteau à côté de moi. Moi, j'ai crié, mais il n'y avait personne. Et puis, ils me disaient, si tu cries, on te tuera avec ce couteau. Ils me faisaient peur avec ce couteau à côté de moi, par terre.
Voilà, une archive de 1993, une victime de viol dans les guerres de l'ex-Yougoslavie. Véronique Naumgrapp, vous vous êtes intéressée, vous en particulier, à ce cas de l'ex-Yougoslavie. On l'a dit tout à l'heure, c'est le viol, finalement, il a malheureusement, tristement, fait partie de la guerre depuis longtemps, mais c'est vraiment avec les guerres de l'ex-Yougoslavie qu'on a découvert, d'une certaine manière, les violences sexuelles, en tout cas comme des instruments de nettoyage ethnique. En quoi est-ce que vous diriez précisément que là, il y a une rupture par rapport à ce que le monde et ce que le monde de la conflictualité connaissait jusqu'ici, et quelles sont, selon vous, les racines, les raisons de cette rupture ?
Il y a plusieurs ruptures, et le fait que le tribunal pénal international pour l'ex-Yougoslavie, qui était ad hoc, comme celui pour le Rwanda, et en 93 défini le viol, a inscrit le viol parmi les crimes de guerre et crimes contre l'humanité, et ça a été vrai aussi avec le tribunal pénal ad hoc pour le Rwanda, c'est un pas quand même très important, puisqu'on voit que même l'ONU traîne, et il a fallu attendre 2014, donc c'était quelque chose. Donc fallait-il, qu'est-ce qui s'était passé? Et le dossier Foča a montré, donc en pleine Bosnie, un lieu où les femmes étaient esclavagisées, a montré la mécanique et l'organisation de cette situation d'esclavagisation des femmes vaincues. Alors, disons que je pense que des pratiques peuvent s'inscrire et être reconfigurées sous la condition qu'elles rentrent dans l'organisation culturelle, ambiante, évidente, qui règne dans une population donnée, qui n'a même pas besoin d'être dite, si vous voulez. Le fait que, par exemple, il y ait cette croyance à bas bruit que le fils hérite plus des qualités, même morales, du père, que la fille n'hérite de celle de sa mère. C'est-à-dire l'idée, et on a cette parole chez les témoins qui disent que le bourreau dit « tu porteras un enfant qui va te haïr ». Donc l'enfant de l'ennemi est pensé comme ressemblant à l'ennemi. Et ça, c'est une croyance que les anthropologues retrouvent, qui fondent d'ailleurs le plaisir que les gens ont à faire leur arbre généalogique en temps de paix, mais si vous voulez, qui doit être aussi étudié. Et ça donne un sens au viol du point de vue du bourreau, cette croyance, parce qu'il croit qu'il fait une action de guerre. Deuxième point, il faut savoir que la propagande de guerre en ex-Yougoslavie, dès que Milosevic a changé sa politique à partir de 89 surtout, et donc nous avions les informations par SOS Femmes Battues de Belgrade, si vous voulez, il a utilisé une propagande de la barbarisation de l'ennemi, ce qui était vrai aussi en 14, ce qui est vrai en temps de guerre, parce qu'il faut bien barbariser l'ennemi, le faire le pire pensable pour des gens qui vont risquer leur vie à se battre contre lui. Et dans la barbarisation de l'ennemi, excusez-moi, il y a ce programme excessif, parce que mensonger, de le faire le pire pensable possible, c'est-à-dire violeur, assassin d'enfants, violeur d'enfants, une espèce d'ennemi à ce point atroce que les militaires, après coup, vont penser comme logique vindicatoire, c'est-à-dire œil pour œil, dent pour dent, tu nous l'as fait, on nous a dit que tu nous l'avais fait, ou que tu vas nous le faire. C'était ça la propagande. Eh bien, tu vas le violer, nos femmes, nos enfants, etc., nous assassiner, nous faire basculer dans les fosses communes. Eh bien, nous allons te le faire. Et ça donne un sens, si vous voulez, et c'est le succès de la propagande, et c'est leur responsabilité, et le côté criminel de la propagande, d'installer les soldats et surtout les miliciens dans une mentalité où le mal qu'ils font à l'ennemi, ça n'est que le miroir de ce qu'on leur a dit qu'on allait leur faire. C'est à la fois préventif et c'est vindicatoire. C'est de la prévention vengeresse. Ça, c'est une légitimation formidable. Il faut faire attention aux propagandes qui barbarisent l'ennemi. C'est une des clés mensongères. C'est une des clés mensonge politique. Le faux entraîne l'outrance. L'outrance entraîne la description sadienne des pires crimes possibles, qui rend fous les acteurs, qui les rend capables, comme un programme mimétique en miroir, de les faire comme vengeance.
Quand je vous entends, j'entends aussi que finalement c'est la mise en place d'une certaine culture où précisément le viol apparaît, en tout cas pour le bourreau, comme un acte de guerre, comme vous nous le disiez tout à l'heure. Dans une récente résolution du Conseil de sécurité des Nations Unies, le Conseil appelait, je cite, à lutter contre les idées fausses selon lesquelles ces violences sexuelles seraient un phénomène culturel. Alors là, je pense que vous avez bondi quand vous avez entendu ça.
Ben, disons que le mot culture est terrible, parce que maintenant, il y a des mots qui tombent en désuétude et d'autres qui sont utilisés tout le temps dans des sens différents.
Bien sûr, c'est un phénomène culturel.
Alors, disons que si on prend culture, non pas au sens d'une construction culturelle élaborée dans tel lieu et qui ferait que telle culture il serait potentiellement plus violent et que dans tel autre, bon, attention. Maintenant, dans la mesure où on parle de pratiques attestées et collectives et massives, il est évident qu'elles rentrent dans un cadre de légitimation culturelle. Exemple, on ne peut pas penser, par exemple, que le sexisme, je trouve que le mot sexisme n'a pas la dignité du mot racisme. Je voudrais un mot aussi digne que le mot racisme pour dire cette haine des hommes contre les femmes. D'ailleurs, il y a un historien, Maurice Domas, qui a fait un beau livre sur la misogynie. Mais détester les femmes par les militaires, les miliciens, cette culture du milicien qui pense que déjà, la femme à laquelle il ne font rien, n'est rien, n'existe pas. Donc c'est un sous-être, un être de seconde zone. Eh bien déjà, cette mentalité, si vous voulez, c'est une culture. C'est une culture qu'il faut définir. Et cette mentalité, à partir du moment où il y a des pratiques de viol et donc de stigmatisation, de domination, de cruauté, elle flambe parce que là, c'est la seule, comment dire, c'est le seul masque à soi-même. Parce que figurez-vous, il y a une chose bizarre. C'est que le tyran, Bachar el-Assad, le violeur, le nazi, le sadique qui fabrique ces pratiques infâme, après coup, il veut qu'on lui dise qu'il est un héros, qu'il a sauvé le monde et que tout est merveilleux. Donc il lui faut vitalement une idéologie qui lui serve de masque à lui-même. Et quelle est cette idéologie ? Dire ces femmes que tu as violées, de toute façon c'est rien, sauf ma mère et ma sœur, toutes des putes. Ces femmes, ces êtres que tu domines, de toute façon, ils sont donc ces pratiques accroissent les racismes, les stigmates, le sexisme dans la situation. Et donc ça aussi, c'est de la culture et c'est comme ça qu'il faut poser les questions plutôt que de chercher des espèces de nids.
Et cette culture de la violence, cette culture du viol même, elle était visible chez les soldats serbes, notamment dans les paroles des chants nationalistes. C'est une chose à laquelle vous êtes beaucoup intéressé. Oui, je vais vous laisser réagir. Oui, je vais vous laisser réagir, mais je voudrais entendre peut-être Leïla Mignano.
Sur
ce cas précis, effectivement, de lien entre le phénomène du viol comme arme de guerre et la question de la culture.
Je pense
si ça vous inspire pas, vous n'êtes pas obligé.
Non, mais après, je pense qu'il y a aussi, quand on parle du viol comme arme de guerre, il y a aussi la question de l'image du barbare, quelque chose qui est très fort. Et on nous dit souvent, le viol comme arme de guerre, c'est lointain, c'est commis par des barbares, notamment africains, avec un discours clairement raciste derrière. C'est loin, c'est pas nous, c'est l'autre. Ces gens-là sont des, entre guillemets, sauvages, sont des barbares. Et donc, du coup, ça peut pas être nos propres soldats français, ça peut pas être les troupes de l'ONU qui sont là pour amener la liberté, qui sont là pour amener les droits de l'homme, etc. Et donc, du coup, quand c'est employé dans ce sens-là, évidemment, ça me fait bondir, évidemment. Quand on parle des viols commis par l'armée française à la libération, c'est-à-dire le viol des Italiennes, des viols de masse qui ont été commis par nos propres soldats, personne n'en a jamais entendu parler. Et vous parlez d'un geste politique tout à l'heure. Je vous dis, un super geste politique, ce serait que Emmanuel Macron, chef des armées, s'excuse, en fait. S'excuse pour quelque chose sur lequel il n'y a pas le moindre doute. Et ça n'a jamais été fait. Pourquoi aucun président de la République ne s'est jamais excusé des violences sexuelles commises par l'armée française? Donc, des sanctions exemplaires, évidemment, puisque les armes juridiques sont là. Il faut les appliquer. Mais aussi, un discours politique, comme ça a été fait sur la question, pas assez évidemment, des violences commises en Algérie. On pourrait également faire ça. Et je pense que la question, par exemple, des viols commises à la libération sur les Italiennes par les troupes françaises serait un bon début.
Bravo. Véronique Namungrap.
Je suis complètement...
Vous abondez,
disons même le viol à Berlin, les femmes à Berlin par les troupes russes. Pourquoi les crimes sexuels en temps de guerre ne sont pas pris... Pourquoi on leur donne pas la dignité politique qu'on donne aux autres crimes faits contre les personnes? Mais pourquoi? Parce que il y a une culture, et là c'est pas du tout le mot culture au sens, je dirais, de rétrograde, mais une culture ambiante des miliciens, des hommes politiques, etc., qui n'accorde pas de valeur et de consistance à la question des femmes et de la sexualité. Et la culture, je reviens à la culture, et elle n'est pas rétrograde du tout, elle n'est pas barbare. Prenons les miliciens. Une étudiante, Ibéa Odondi, avait étudié les chants des miliciens au Kivu, à Congo Brazza, des miliciens impliqués dans les crimes horribles dont nous parlons. Eh bien, c'était des chants, une espèce de rock, le bandeau de Rambo, les tatouages, un rapport à la mort des très jeunes, comme ailleurs ce qui avait été étudié par Daniel Pecot pour la Colombie, le rapport vive la mort, etc. Les tatouages, vivons aujourd'hui, nous allons mourir demain, et toute une culture très contemporaine, avec du rock, et avec des tags, et avec les tatouages que partageaient aussi les miliciens, et vous savez que la question des milices est fondamentale pour cette question des crimes contre l'humanité, et donc les nombreuses milices aussi en ex-Yougoslavie. Ce sont des cultures très contemporaines partagées en temps de paix.
Alors, les femmes ne sont pas évidemment les seules à être victimes de viols durant les conflits. Comme pour les femmes, le phénomène des viols dont sont victimes les hommes est encore extrêmement tabou. En quoi la mécanique du viol masculin se différencie du viol féminin? D'ailleurs, est-ce qu'il faut genrer cette question du viol qui reste pour les femmes et les hommes une violence sexuelle sur un individu? On va en parler.
Si je me rappelle bien, c'était en avril 1987. C'était à l'aube, quand tout le monde dormait encore. Je me suis réveillé pour constater que toute la cour était entourée de soldats. Quand j'ai ouvert la porte, ils étaient juste devant. C'étaient les soldats du gouvernement, la 55e brigade. Lorsqu'ils m'interrogeaient, ils n'ont eu de cesse de m'accuser d'être le père des rebelles et de les nourrir. Ils m'ont demandé où était le bétail. Comme c'était la saison sèche, le bétail était dans les pâturages. Ils m'accusaient d'avoir caché le bétail. Pendant que certains allaient de l'avant, d'autres sont restés avec moi. Certains d'entre eux sont restés dans la maison avec ma femme. Moi, ils m'ont traîné dehors et sodomisé. Je crois qu'ils étaient trois. Chacun à son tour. Tout était très violent. On devait obéir. On ne savait pas si on allait être libéré. Ils m'ont considéré comme une femme. J'ai contracté des maladies. Mon amertume vient du fait que ceci n'était pas une maladie naturelle, mais due au viol qu'ils m'ont infligé, ce qui n'est pas normal pour nous les hommes.
Voilà, donc une victime congolaise, qui se confie dans le cadre d'un programme conduit par deux associations, The Men of Hope et The Refugee Law Project, qui est une association de Chris Dolan, un professeur américain qui a beaucoup fait pour faire connaître et reconnaître les sévices de ces Congolais. On va retrouver un nouvel invité, Marc Lepape, bonjour. Merci d'être avec nous ce matin. Vous êtes sociologue, chercheur associé à l'EHESS. Vous avez effectué des recherches en Algérie, en Côte d'Ivoire et en Afrique centrale, mais aussi sur les conflits dans la région des Grands Lacs. Vous avez notamment travaillé sur cette question des viols d'hommes lors de conflits armés, un sujet sur lequel d'ailleurs vous avez écrit un article, viols d'hommes, masculinité et conflits armés. Ils ont longtemps été fait l'objet d'une certaine invisibilité, notamment de la part des ONG, des agences onusiennes. Quand sont-ils devenus finalement un sujet de préoccupation et d'étude? Et est-ce que vous diriez que c'est aussi lié à une forme de montée en puissance dans ce phénomène? Pour le dire autrement, est-ce qu'ils ont augmenté ces dernières années?
Ont-ils augmenté? Je ne peux pas répondre parce que c'est leur reconnaissance qui a augmenté et qui fait qu'ils apparaissent plus dans le champ public et dans le domaine de la justice. Donc, dire qu'ils ont augmenté, ça serait aussi évoquer des chiffres. Or, dès qu'on parle de chiffres, on rentre dans l'incertitude, ou plutôt dans des fausses certitudes. Donc, je préfère pas trop employer le terme augmenté.
Alors, sur la reconnaissance, justement, Marc Lepape, vous dites qu'elle s'est faite grâce notamment au concours d'un certain nombre d'acteurs, de journalistes, de chercheurs, de praticiens, d'humanitaires. Et on peut penser peut-être à cet article du New York Times de 2009, dans lequel l'auteur évoque ces violences, en particulier en RDC, où les viols d'hommes, en tout cas, c'est ce qui est dit à l'époque dans l'article, auraient connu une forme de recrudescence. Il y a aussi un autre article que vous évoquez, c'est celui de The Observer, sur le cas de l'Ouganda. Il y a eu cette médiatisation qui a été quand même essentielle pour la reconnaissance de cette question.
Oui, je crois qu'il faut remonter avant quand même. Il faut remonter à la Bosnie, comme l'a dit Véronique Naoum-Grapp et cité Roy Gutmann, qui en a parlé dès 1993-1994. Un article du Lancet aussi en 1997 sur la Bosnie. Bon, alors maintenant, pour revenir au Congo, effectivement, l'article de 2009 dans le New York Times a quelque chose de très frappant, c'est qu'il publie quatre photos. En tête de l'article, quatre photos d'hommes violés. Alors le fait que des photos apparaissent, c'est quand même tout à fait exceptionnel. Le visage est reconnaissable, ils sont donc identifiables. C'est quand même extrêmement nouveau et c'est effectivement beaucoup dû à l'action du docteur Chris Dolan qui travaille à Kampala et qui a créé l'association dont vous avez parlé, qui porte son aide, son assistance aux réfugiés, notamment aux réfugiés congolais, et tout particulièrement aux réfugiés congolais qui ont été violés durant les différents combats de milices à l'est du Congo. Il leur apporte une aide juridique, médicale. Mais en même temps, le Chris Dolan est un activiste, c'est-à-dire qu'il est présent dans nombre de réunions, de meetings, d'ateliers où cette question du viol d'hommes est discutée et publicisée. Et je pense que si les journaux comme le Guardian et le New York Times en ont parlé, c'est dû beaucoup à cet activisme nouveau en Ouganda.
Marc Le Pape, vous vous interrogez aussi sur la question de la conception, de la représentation du viol masculin. Et vous évoquez notamment le cas de cette journaliste féministe américaine, Suzanne Brown Miller, qui évoquait le viol, je la cite, comme un acte d'intimidation par lequel tous les hommes gardent toutes les femmes dans un état de peur. Et à propos de la critique de cette conception, vous écrivez, je vous cite, « La catégorie des coupables est ainsi construite comme homogène du point de vue du genre. Elle comprend potentiellement tous les hommes, violeurs en général. Ils ne peuvent être perçus comme victimes de violences sexuelle. Donc, il y avait, en tout cas pour certains, une conception genrée du viol qui rendait difficile cette représentation du viol masculin.
Oui, alors Brown-Miller, le bouquin auquel vous vous référez, c'est un bouquin assez ancien qui représente plutôt le féminisme des années 1970. Je crois que depuis, les courants féministes et les courants contradictoires se sont multipliés. Je crois que surtout le problème, c'est les normes de genre. Et la conviction que les normes de genre sont universelles. Ce que l'on peut appeler, pour faire simple, l'hétéronormativité. Effectivement, ces normes, cette espèce de sous-culture envisage le masculin comme fort, actif, etc. Donc, ne pouvant être violé. Sauf, il y a de l'homosexualité de la part de l'acteur et même de la victime. Alors ce thème de l'homosexualité des violeurs et des victimes, moi, me paraît vraiment, dans le cas du Congo, complètement, simplificateur, schématique, à côté de la plaque, quoi.
Jean-Pierre Bemba, ancien vice-président de la République démocratique du Congo, durant en tout cas la période de transition, après avoir été dirigeant d'un mouvement de rébellion, en 2016, il est condamné par la Cour pénale internationale à 18 ans d'emprisonnement pour crimes de guerre et crimes contre l'humanité. Et c'est l'une des premières affaires, même la première affaire en réalité, où l'on reconnaît officiellement des cas de viol sur des hommes, et des cas qui font d'ailleurs l'objet de cette condamnation. Donc vous pensez que c'est un tournant, une rupture là, cette reconnaissance en fait, et cette condamnation?
J'espère, c'est un tournant, mais un tournant qui vient après de longues discussions au sein des Nations Unies, au sein de la CPI. Enfin, non, la CPI, si on prend les textes d'origine de la CPI, il n'y a pas de distinction entre hommes et femmes dans les textes fondateurs de la CPI. Par contre, si on prend les discours aux Nations Unies, jusqu'au moins 2008, les viols en temps de guerre sont considérés, les seuls viols en temps de guerre considérés sont les viols de femmes et d'enfants. Et c'est seulement à partir de 2008, surtout entre 2008 et 2013, qu'on observe un tournant et une reconnaissance que l'accusation de viol ne doit pas être genrée. Les viols d'hommes relèvent de la justice internationale, de la CPI en l'occurrence. Et c'est effectivement dans le cas Bemba qu'un chef de guerre a été condamné pour les viols commis par les troupes qu'il dirige en République centrafricaine. Donc c'est effectivement la suite de longues discussions, auxquelles d'ailleurs Dolan a participé régulièrement, de longues discussions au sein des Nations Unies, des ONG, etc., pour arriver à ce jugement. Il y a effectivement donc une conjonction de recherches, de débats de juristes, d'interventions décisives de journalistes, et de discussions à l'intérieur des ONG pour en arriver là. C'est vraiment long et lent processus.
Une réaction de nos deux invités.
En disant cela, je prends garde Je ne cherche pas à allumer une concurrence des victimes, surtout en évoquant des viols d'hommes. Or, c'est ce qu'on m'a reproché à propos de l'article que vous avez cité dans les cahiers d'études africaines.
Dernière réaction peut-être de nos deux invités, Leïla Mignano et puis Véronique Naoumgrap. Leïla Mignano, sur ce cas, vous vouliez réagir?
Je pense qu'il faut saluer effectivement le fait qu'il y a un an seulement, la Cour pénale internationale ait retenu les charges de viol à l'encontre de Jean-Pierre Bemba. Mais il faut dire aussi que de l'autre côté, dans l'autre camp, des viols avaient été commis et ceux-là ont été complètement écartés. Mais c'était le camp des gagnants, donc du coup forcément ça joue. Deuxième chose, la Cour pénale internationale a tardé à reconnaître. C'est la première fois de son histoire quand même. C'est la première fois, par exemple, avant il y avait eu d'autres cas portés à sa connaissance, notamment en Colombie, notamment en République démocratique du Congo, dans d'autres pays, dans d'autres situations, et ça ne l'a pas été fait. Par ailleurs, l'ancien procureur a été lui-même mis en cause dans une affaire de viol contre une journaliste en Afrique du Sud.
Véronique Naoumgrap, vraiment quelques mots, parce qu'on arrive au terme de cette émission, donc je vous demande vraiment d'être courte, et peut-être en particulier sur la manière dont les mouvements féministes se sont emparés de cette question des viols d'hommes.
Alors pour les viols d'hommes, donc le viol, torture, mais crime de profanation qui touche la question de l'identité du sujet, ça enlève de la masculinité à l'homme, et transformé en femme. Donc cette agression, cette tragédie ne peut pas être minorée. Qu'en ce qui concerne les femmes, le viol pose la question de l'enfant, peut-être éventuel, et en ex-Yougoslavie, dossier Bassioni 94, il y avait les grossesse forcée, donc ça pose question, qu'est-ce qu'on fait de l'enfant du viol, etc. Donc la problématique est différente à cause des sujets. Mais disons que ce qui s'est passé avec le féministe, c'est le féministe s'empare d'un sujet pour en faire leur fromage et se trompe sur toute la ligne. Et moi, je suis féministe, la femme dans un camp de réfugiés est entourée des hommes des deux sexes de toute la famille qui sont survivants. Et donc, le féministe doit s'emparer de la question des viols des hommes, des gens, de tous âges, de tous sexes, et ne pas la rabattre sur son idéologie, bien évidemment.
Pape qui était avec nous par téléphone. Je rappellerai son ouvrage « Génocide et crimes de masse, l'expérience rwandaise de Médecins sans frontières » qui était paru aux éditions du CNRS. Un grand merci à nos deux invités ici en plateau. Véronique Naoumgrap, merci de nous avoir accompagnés ce matin.
Merci de m'avoir invité.
Leïla Mignano, un grand merci également. Je rappellerai donc que vous êtes membre de ce collectif YouPress et Zero Impunity. On a parlé de ce projet tout à l'heure, mais également auteur de La guerre invisible, révélation sur les violences sexuelles dans l'armée française qui était paru aux arènes. Et puis Le sacrifice de Palmyre aussi, une enquête inédite au cœur de l'horreur syrienne. C'était chez Grasset l'année dernière. Un grand merci à toutes les deux. Presque 53 minutes, le temps pour nous de retrouver Brice Couturier et le Monde des Idées.
Le tour du Monde des Idées, Brice Couturier.
Bonjour Brice.
Bonjour Florian.
Et on parle avec vous de politique énergétique. Sur le site The Conversation, une spécialiste des questions énergétiques, Sandrine Maljean-Dubois, écrit que le retrait des États-Unis de l'accord de Paris sur le climat pouvait constituer un électrochoc positif. Qu'est-ce qu'elle entend par là?
Elle raisonne en termes géopolitiques. Les politiques énergétiques étaient, au niveau mondial ces dernières années, dominées par un leadership sino-américain. Trump a accusé l'accord de Paris d'être particulièrement favorable aux intérêts de la Chine et de l'Inde. Cette dernière, nouveau grand dirigé par un leader nationaliste sourcilleux, Narendra Modi, ne l'a pas bien pris. En visite d'État en France ce mois-ci, il a assuré que son pays, je cite, « irait au-delà de l'accord de Paris ». L'Inde, troisième plus gros producteur d'émissions de carbone du monde, dépend du charbon à 60% pour ses centrales électriques. Elle vient de décider de doubler sa production d'énergie d'origine nucléaire. sur laquelle elle est en retard avec seulement 22 réacteurs en service. L'Inde, il faut le savoir, consomme aujourd'hui 3 fois moins d'énergie que les États-Unis, mais elle va voir sa demande exploser dans les prochaines années en raison de sa forte croissance. La Chine de son côté a vu dans le retrait américain un moyen de démentir ceux qui prétendent que Pékin n'assume pas ses responsabilités internationales. Bref, l'Union européenne pourrait bien, sur la stratégie énergétique, redéployer ses alliances en direction des grandes puissances qui partagent les mêmes conceptions et les mêmes inquiétudes qu'elle. L'Allemagne accueillera la COP 23 en novembre de cette année. Les États-Unis, deuxième pays le plus pollueur de la planète après la Chine, responsable de 18% des émissions mondiales de gaz à effet de serre, risquent d'y faire figure d'accusé. Par ailleurs, souligne toujours Sandrine Maljean-Dubois, on ne sort pas d'un accord international négocié au cours de plusieurs années sur le coup d'un caprice et d'un simple trait de plume. Sa dénonciation officielle ne peut intervenir qu'à l'expiration d'un délai de 3 ans à compter de sa date d'entrée en vigueur. En réalité, la décision annoncée par Trump le 1er juin ne pourra prendre effet qu'au moment des prochaines présidentielles américaines. D'ici là, le président américain peut avoir changé d'avis, petit 1, être sur le point d'être remplacé, petit 2, à moins qu'il ne l'ait déjà été, petit 3, cocher la mention qui vous convient.
Est-ce à dire, Brice, que le retrait américain n'aura qu'une valeur symbolique, mais que les entreprises, les États fédérés, les grandes villes bloqueront Donald Trump?
Mais oui, un front du refus s'est immédiatement constitué aux États-Unis, auquel appartiennent les gouverneurs démocrates de plusieurs États, dont Jerry Brown, le gouverneur de Californie, un véritable État dans l'État. Ils ont formé une alliance pour le climat et se sont engagés à réduire les émissions de gaz à effet de serre de leur propre État de 26 à 28%. Plusieurs maires de grandes villes américaines en ont fait de même. Tous déplorent la mauvaise image des États-Unis que donne son président sur la scène internationale. Mais autre son de cloche, Björn Lomborg, qui se définit comme environnementaliste sceptique, accuse de son côté les critiques les plus féroces de Trump sur le sujet du climat et de l'environnement de tenir un double langage. Ainsi, l'ancien vice-président Al Gore déclare d'un côté qu'en se retirant de l'accord de Paris, le président américain met en danger la santé de nos enfants, mais de l'autre, il prétend que les renouvelables sont devenues tellement compétitives que l'abandon des énergies fossiles est inscrite dans la logique de l'économie de marché. Eh bien, beaucoup de spécialistes estiment en effet que les coûts de production des énergies renouvelables ont tellement baissé ces dernières années qu'elles pourraient devenir compétitives et surtout que les progrès en cours dans les technologies de stockage de l'électricité vont résoudre les sérieux problèmes posés par l'intermittence de l'éolien et du solaire. Eh bien, ce que Lomborg nie, chiffres en main. Selon lui, si des capitaux considérables ont été investis dans l'éolien et le solaire, selon lui, 125 milliards de dollars pour la seule année 2017, c'est tout simplement parce que ces sources d'énergie sont largement subventionnées par les États. Mais elles sont loin, loin d'avoir atteint le seuil de rentabilité par rapport aux hydrocarbures, surtout dans le contexte de la baisse du pétrole. Et leur contribution à la fourniture d'énergie mondiale demeure très faible, pour ne pas dire marginale. En réalité, comme l'écrit Marie-Claire Aoun, la directrice du centre énergie de l'IFRI, ce qui frappe dans le système énergétique mondial, je la cite, c'est sa grande inertie. La part des énergies fossiles dans le mix énergétique mondial n'a guère évolué depuis les années 1980. Et en effet, selon l'Agence internationale de l'énergie, ces énergies fossiles continue à fournir l'essentiel de la consommation d'énergie primaire de l'humanité, soit, tenez-vous bien, 85,5% du total. Un tiers pour le seul charbon, 28% pour le pétrole, 24% pour le gaz naturel, les énergies renouvelables ne couvrant, elles, que 3,2% de la consommation mondiale d'énergie, ce qui est en effet marginal. Alors, il y a une bonne nouvelle. La bonne nouvelle, c'est que les émissions de CO2 sont restées stables d'une année sur l'autre, malgré l'augmentation de la consommation mondiale, ce qui prouve qu'on progresse en tous les cas beaucoup du côté de l'efficacité énergétique. Cependant, beaucoup reste à faire. Selon le GIEC, il faudrait parvenir à une baisse très sensible de l'ordre de 40 à 70% selon les spécialistes des émissions pour parvenir à atteindre les objectifs de la COP21. Et il faut le reconnaître avec honnêteté, on n'en prend pas le chemin.
Bon, donc il n'y a pas vraiment de quoi se réjouir, même si on a augmenté, amélioré notre efficacité énergétique. Voilà le point un petit peu optimiste qu'on retiendra. Merci beaucoup Brice Couturier pour cette chronique qu'on peut retrouver sur le site internet de France Culture, www.franceculture.fr.